dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. La dimanche dernier, nous avons vu la fin du chapitre 15 et aussi le début du chapitre 16 où Jésus avertit à ses disciples qu'ils auront des persécutions. Et c'est toujours, il leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Et eux restent troublés, on va les voir encore là dans ce passage ce matin, on va trouver qu'ils sont encore dans la tristesse, ils ne saisissent pas encore tout ce que Jésus a préparé pour eux, mais bon, nous avons du recul par rapport à eux, et nous devons être dans la joie et l'espérance, vu ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors je lis à partir du verset 4, la deuxième partie, donc la partie B, il dit « Je ne vous en ai point parlé dès le commencement ». Voilà, donc Jean chapitre 16, verset 4, B, deuxième phrase. Et nous lirons jusqu'au verset 15. Il dit « Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous ». Verset 5. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Comme nous l'avons dit, Jésus a beau dire, et il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit déjà au début du chapitre 14, et puis encore, il l'a repris au verset 15, que votre cœur ne se trouble point. Mais ici, nous voyons quand même au verset 6, il dit que la tristesse a rempli leur cœur. Jésus pose une question là, aux disciples, et il dit, mais... Au verset 5, ce qui m'étonne, c'est que vous ne m'ayez pas demandé où je vais. Personne n'a dit, Seigneur, où vas-tu? Et là, si vous êtes un peu à l'aise avec ces chapitres, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi il dit cela. Parce que déjà, au chapitre 13, verset 36, Pierre a dit, Seigneur, où vas-tu? Et puis, au chapitre 14, verset 5, Thomas qui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus dit, « Mais jusque-là, vous ne m'avez pas encore posé la question où je vais, pour savoir où je vais. » Et alors, premier abord, on est un peu perturbé là, et... Mais je crois qu'on se trouve dans une situation là où, quand Pierre a dit « Où vas-tu ?» ou quand Thomas a dit « Nous ne savons pas comment y aller », ce n'était pas tellement par préoccupation de savoir où il allait, mais dans le sens que « Mais pourquoi est-ce que tu t'en vas ?» Imaginez une situation, je prends un exemple de la vie de tous les jours, supposons que Junior, hein, le garçon, il a prévu une sortie avec papa. Ils vont aller à la pêche ensemble. Et puis, ils ont tout préparé. Tout est dans la voiture. Le coffre est fermé. Et tout d'un coup, papa reçoit un appel. Il dit, aïe, fiston, je ne vais pas pouvoir y aller avec toi. Je reçois un appel. Et le garçon répond, mais tu vas où? Pas dans le sens, ça l'intéresse, où il va, mais dans le sens, mais tu vas me laisser? Tu vas me laisser tout seul? Et tu vas me laisser? Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que les disciples disaient, mais tu vas où? Parce que finalement, ça ne les intéresse pas ce que allait lui arriver. Et ils n'ont pas posé la question dans ce sens de savoir où il disparaîtrait. Pour eux, leur préoccupation, c'était « Et nous, on va faire comment ?»« Et nous ?» Et c'était là leur préoccupation. Et vous savez, et c'est très naturel, et combien de fois nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien, nous nous soucions moins de ce que du côté Dieu de la chose, d'une situation, et nous sommes plus préoccupés par notre côté. Et parfois, il nous est même arrivé qu'on soit triste, qu'on soit même un peu fâché avec Dieu, qu'on soit un peu dérangé parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu, parce que les choses, on a l'impression que Dieu n'a pas pris en compte ma situation. Et on ne se pose pas la question, mais lui de son côté. Pour prendre un exemple tout bête, vous avez prévu un mariage à l'extérieur, la fête, tout le monde est invité, c'est prévu le soleil, et puis ce jour-là, c'est la pluie. Seigneur, pourtant, j'ai prié qu'il y ait du soleil ce jour-là. Eh oui, mais bon, vous avez pensé à lui, et ce qui est tous les gens qui doivent plaire aussi, hein, l'agriculteur qui a besoin de pluie, ceci, cela. Mais moi, son problème avec les autres, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. C'est moi qui ai un mariage et il pleut. Mais combien de fois dans les situations de nos vies, même en tant que chrétien enfant de Dieu, les choses ne se passent pas comme on veut et on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Pas parce qu'on veut savoir pourquoi lui ne l'a pas fait, mais pourquoi moi je n'ai pas eu ce que j'ai voulu. Et c'est tellement caractéristique. Et je ne vais pas montrer les disciples du doigt et dire, ça c'est... Non, mais les disciples d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs, hein. Et combien de fois, eh bien peut-être que nous avons dit des choses pas gentilles sur le Seigneur, ou nous avons pensé des choses, ou nous avons un peu boudé. Peut-être même on s'est absenté de l'Église pendant un temps parce que les choses ne sont pas passées comme il fallait. Mais sans nous poser la question, mais et lui de son côté, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et comment est-ce que ça rentre dans son plan? Et là, Jésus, il répond, parce que les disciples ne disent rien, il répond, il dit, mais vous savez, je vous assure, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ben, eux ne voyaient pas la chose de cette manière-là. Pour eux, le fait qu'il s'en aille, c'était catastrophe. Et nous, on va faire comment? Et nous, on va aller où? Mais Jésus dit, écoutez, je vous assure, vous ne comprenez pas tout encore, mais je vous assure qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Et vous savez, et le Seigneur pourrait répondre de cette manière-là à beaucoup de choses. Il dit, écoute, je sais, tu ne comprends pas pourquoi, et tu ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas reçu, et tu ne sais pas pourquoi ce travail, tu ne l'as pas eu, ou pourquoi tu n'as pas eu cet appartement, ou pourquoi tu ne comprends pas. Mais je te dis que c'est dans ton bien. Seigneur, je ne le vois pas. Il dit, je sais, je comprends. Je ne te reproche pas de ne pas pouvoir voir ce que je vois. Mais tout ce que je te reproche, c'est de ne pas me faire confiance que je cherche ton bien. Oui, il est facile de citer aux autres, de leur dire, mais tu sais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, pour les autres, ça marche toujours. C'est une bonne réponse. Mais pour soi-même, ce n'est pas toujours une bonne réponse. Ah bon? Il dit pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu es parmi ceux qui aiment Dieu? Si tu es parmi ceux qui aiment Dieu, eh bien, à partir du moment que tu as placé ta vie devant le Seigneur et tu as dit, Seigneur, je te fais confiance pour le salut, je te fais confiance pour la vie éternelle, eh bien, je te fais confiance pour les besoins de chaque jour. Il dit, il vous est préférable que je m'en aille. Parce que quand je partirai, vous recevrez le Consolateur. Tant que je ne suis pas parti, vous ne pourrez pas recevoir le Consolateur. Et faites-moi confiance. Ça sera mieux pour vous quand vous aurez le Saint-Esprit. Et pour nous qui avons du recul, hein, nous pouvons lire les Actes des Apôtres et nous voyons la différence entre ce qui se passe dans les Actes des Apôtres et ce qui s'est passé pendant le ministère de Christ. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr que, combien de fois, je pense qu'il y a chacun de nous, on s'est dit, ah, si j'aurais pu être là en Galilée à l'époque de Jésus et voir ces miracles et de l'entendre, oh, ça aurait été bien. Il te dit, écoute, crois-moi, c'est meilleur maintenant qu'à l'époque. Parce que là, tu n'aurais vu que des miracles. Et tu aurais vu des pharisiens qui me font des grimaces. Mais c'est tout ce que tu aurais vu. Maintenant, tu vois les vies transformées. Tu vois l'œuvre de Dieu qui avance. Tu vois des milliers d'âmes du monde entier, dans toute langue, de toute race, qui adorent le Seigneur. Tu vois des choses plus merveilleuses que ce qu'ont vu les disciples avant la croix. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Et ensuite, il dit, voilà, le Consolateur, voyez, je vais vous dire ce qu'il va faire. Il aura un ministère auprès du monde, donc du monde incroyant. Hein, le monde représente tous ceux qui ne croient pas. Et il aura un ministère auprès des disciples. Donc, c'est pour ça qu'il dit, quand, au verset 8, et quand il sera venu, eh bien, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il a une mission, une première mission vis-à-vis du monde. Trois mots qui sont liés les uns aux autres. Trois mots clés, trois mots qui représentent l'œuvre de l'Esprit de Dieu parmi les incroyants. Et ce que nous étions, chacun d'entre nous. Hein. Donc j'espère que nous sommes tous passés par là. C'est-à-dire c'est avec chacun qui vient à Christ, il y a ce ministère de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Sinon, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Donc ce sont des mots clés et par lesquels cette œuvre-là, doit se faire en nous. Remarquez qu'il dit qu'il convaincra le monde. Ça veut dire que le monde n'est pas forcément disposé à le croire, à recevoir. Hein, quand on doit convaincre, ça veut dire qu'il faut être préparé avec des arguments, il faut être préparé avec de bonnes raisons, il faut avoir présenté une logique, il faut tout ça pour que l'autre personne, c'est-à-dire la question, pourquoi est-ce qu'on le convaincre? C'est-à-dire que c'est amener l'autre personne à penser comme je pense. Et si le Saint-Esprit doit convaincre, c'est qu'il a besoin que l'homme pécheur commence à penser ce que Dieu pense d'un sujet particulier. Et s'il emploie le mot convaincre, ça veut dire que ça ne vient pas tout seul. S'il emploie le mot convaincre, ça veut dire qu'il ne le pense pas, que le monde ne le pense pas tout seul. Et donc, quelque part, il y a un travail à faire sur le cœur de la personne, et plus que sur l'intelligence. Hein. L'œuvre de Dieu se fait plus au niveau du cœur et de l'esprit de la personne que de l'intelligence de la personne. L'intelligence, bon, c'est quelque chose pour la vie de tous les jours, pour notre vie terrestre. Bien sûr, c'est bien d'avoir un petit peu d'intelligence quand même. Mais pour l'œuvre de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu doit répondre à l'œuvre, l'Esprit de l'homme doit répondre à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et dans un sens, il dit, et il est avantageux que l'Esprit vienne, parce que lui pourra le faire. Vous savez, Jésus-Christ, pendant tout son ministère terrestre, il était confronté aux pharisiens, aux scribes, aux religieux. Et même si eux prétendaient une adhésion stricte de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, hein, c'était ça, ils voulaient être connus comme ceux qui appliquaient littéralement l'Ancien Testament. Et pourtant, ils n'étaient pas synchronisés avec la pensée de Jésus-Christ, qui est la pensée de Dieu. Il y avait constamment, déjà rien que dans le sermon sur la montagne, si vous prenez Matthieu chapitre 5, Jésus dira, vous avez entendu, il a été dit, on vous a enseigné, mais moi je vous dis. Il dit, vous l'avez reçu d'une certaine manière, mais moi je vous dis que la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Et constamment, il y avait une confrontation vis-à-vis du sabbat, comment respecter le sabbat. Les pharisiens, ils avaient une manière de respecter le sabbat, Jésus en avait une autre. Et il y avait une confrontation. Et Jésus, finalement, à la fin, il n'avait pas réussi à les convaincre. Et à tel point que c'est eux qui le crucifient. C'est eux qui par le biais d'une mascarade, le condamnent à mort. Et il meurt. Il dit, mais vous, disciples, vous aurez besoin, parce que vous serez confrontés pas seulement à des scribes et des pharisiens, mais après, il y a toutes les autres religions du monde. Hein. Il dit, c'est pas comme ça, avec des miracles, qu'on convainc les gens. Vous savez, celui qui... c'est pas un miracle qui convainc quelqu'un au salut. C'est la parole de Dieu, c'est la foi dans le salut, pas le fait d'avoir témoigné un miracle. Beaucoup ont vu des miracles à l'époque de Jésus, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont cru. Et le diable arrive à reproduire des miracles. Vous allez dans n'importe quelle religion du monde, et vous allez dans leur lieu sacré, et ils prétendent de miracles. Et ils ont des miracles extraordinaires. Moi, j'ai eu affaire avec les marabouts, hein, je connais les histoires des marabouts. Ben, il y a des choses extraordinaires qu'ils arrivent à faire. Est-ce que ça certifie que ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu? Pas du tout. Un miracle ne certifie rien, il attire l'attention seulement sur celui qui parle. Mais c'est en évalué en fonction de la parole et de ce que Dieu dit. Et donc, il a dit, vous aurez besoin, il vous est avantageux, ça vous économisera beaucoup d'efforts, que le Saint-Esprit vienne et que ce soit lui qui agit sur le cœur des personnes et qui les amène à la conviction. Jésus lui-même dit, les apôtres l'ont dit, hein, dans les épîtres, ils ont dit, vous savez, personne ne peut croire que Jésus est Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ça ne peut pas s'apprendre. Vous expliquez ça intellectuellement à quelqu'un, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas le saisir. Vous êtes en train de... Et essayer de passer un tube carré dans un trou rond. Ça passe pas. Mais l'Esprit de Dieu, quand il agit dans le cœur, je suis convaincu, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai pas de doute. Pour moi, Dieu, il n'y a rien de plus naturel. C'est plus facile de croire en Dieu que de croire au soleil. Hein. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, il vous est avantageux que l'Esprit vienne, parce qu'il convaincra le monde. Il fera un travail dans le cœur des uns et des autres. Donc, comprenons déjà, Jésus est en train de dire, vous savez, dans le monde, il y a un décalage entre même les plus religieux, les plus proches, il y a un décalage entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Ésaïe dira, dans Ésaïe 55, il dira, oh, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, il n'y a pas de synchronisation naturelle. Vous savez, si l'homme n'aurait pas jamais pu écrire un livre pareil, surtout qui qui s'étire sur 2000 ans, avec une quarantaine d'auteurs différents, à des époques différentes, qui ne pouvaient pas se consulter, et qui étaient de rangs sociaux différents. Les uns, c'était des pêcheurs, les autres, c'était des éleveurs, les autres, c'était un berger, l'autre, c'était un roi, l'autre, chacun. Vous savez, tout ça, ça influe sur les pensées. Ils n'ont pas forcément les mêmes pensées. Hein, moi, quand j'étais à l'école, au lycée, alors on étudiait la littérature du XVIe siècle, ensuite la littérature du XVIIe siècle, après le XVIIIe siècle, XXe siècle, et maintenant il y a une littérature du XXIe siècle. Moi, j'étais à l'école quand c'était le XXe siècle seulement. Mais vous savez, ça évolue. Ça évolue. Et ça, c'est rien qu'en France. Mais la Bible, eh bien, elle passe à des époques où il y a différents empires, sous différents empires, sous différents régimes, issus de différents. Il y a une partie qui était en Égypte, il y a une partie qui se fait au Canaan, il y a une partie qui se fait à Babylone, il y a une partie qui se fait en Palestine. C'est un peu partout que ça vient. Et pourtant, il n'y a qu'une seule pensée. C'est qu'il y avait une pensée derrière. Et il fallait synchroniser avec Dieu. C'est quand même extraordinaire que les apôtres, avec toute la persécution qu'ils ont subie dans le premier siècle, eh bien, ce que faisait Rome ne ressort jamais dans les épîtres, presque pas. De temps en temps, Paul est en prison, mais à peu près tout. Hein, c'est parce qu'il a été mis en prison pour la cause de Christ. Mais sinon, on ne sait rien. Le Nouveau Testament ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passait à l'époque. Pourtant, la culture grecque, elle est là. Rome est là. Et s'il y a des choses qui ça bouge, il y a des guerres. Vous lisez les livres d'histoire d'Israël. Et il y a des guerres à cette époque. Il y a toutes sortes de choses. Des massacres. Mais ça n'influe pas. C'est comme la lumière. Peu importe ce qui se passe ce jour-là, le soleil brille pareillement. Et la lumière de la parole de Dieu, et ça a été souligné ce matin, cette parole qui est là et qui est claire, c'est l'œuvre de Dieu. Et il dit, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'après, l'Esprit de Dieu viendra. Moi, quand je parle à l'être humain. Lui, il parle dans le cœur. Il pourra faire un travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va essayer de convaincre? Il dit d'abord de péché, de justice et de jugement. C'est trois mots que les gens n'aiment pas. Hein. Sortez là, essayez de dire, ce soir nous allons parler du péché. Vous allez voir s'il y aura du monde pour venir vous écouter. Ou vous parlez, il dit, moi je parle de la justice. Alors, il dit, oui, la justice, mais bon, chacun sa justice, son intérêt. C'est pour ça qu'on a tant de partis et de syndicats et de tout cela, parce que chacun a son idée de ce qui est juste. Puis après, on a des guerres, et chacun, sa cause est juste. Entre-temps, il y a beaucoup de victimes. Donc, et puis après, de jugement. Alors là, ça c'est un autre mot qu'on n'aime pas trop. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit le péché. De péché, et quel est le péché qui dérange Dieu le plus? Eh bien, il dit, au verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous savez, c'est le seul péché qui pourra vous empêcher d'aller au ciel. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Ne pas croire en Dieu. Et Dieu dit, si tu ne veux pas croire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Le croire, et c'est pas croire dans le sens de... Il y a plein de monde, hein, vous sortez, vous faites un sondage sur le bord de mer, là, et vous allez trouver, quand même, vous allez trouver des gens qui disent « je crois ». Et puis si vous allez à la Gabelle, vous allez trouver beaucoup de monde qui dit « je crois ». Mais c'est pas de cela qu'il parle. Hein, c'est pas croire que Jésus a existé. Ça ne suffit pas de croire que Jésus, c'était un homme vraiment qui avait de bonnes intentions, mais malheureusement, il n'a pas réussi son coup. C'est croire que Jésus, eh bien, oui, c'est un homme de bien, c'est un prophète, c'est celui qui a vécu selon ses convictions, il a été jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, le martyr pour ses convictions. C'était quand même, bon, c'est honorable. Il y en a qui vont même dire, ils vont même aller jusqu'à dire que, bon, c'est un prophète de Dieu, il a parlé pendant un temps. Mais ses paroles ne sont plus valables maintenant. Ça ne suffit pas. Il y en a qui vont même l'appeler fils de Dieu, mais dans le sens de fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est moins que Dieu. Et ça, c'est pas croire. Et donc, si c'est ne pas croire, eh bien, c'est péché devant Dieu. Et le péché, et c'est ce qui nous sépare de Dieu, qui nous prive de tout, de quoi que ce soit de la part de Dieu. À part ces grâces générales, comme la santé, le soleil, la pluie, les choses comme ça, qui donnent à tout le monde, tant que nous sommes dans ce monde. Mais pour ce qui est du salut, eh bien, c'est seulement en croyant. Croyant, c'est-à-dire de croire que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Le geôlier, vous souvenez, le geôlier, la veille, il était sûr de lui, il a battu les prisonniers, il les a mis dans le fin fond de la prison et tout ça. Puis après, il y a eu juste un petit tremblement de terre et tout d'un coup, lui aussi, il est tremblant. Et il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Ça lui a changé les idées, hein, quand ça a tremblé, surtout quand il a vu la porte de la prison ouverte. Ça qui lui a fait peur. Et Jésus dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Certainement que Paul en avait parlé la veille, il avait dit pas mal de choses, mais l'homme, bon, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre, il restait très peu, parce qu'il se souvenait le plus comment être sauvé. Et il dit, que dois-je faire? Oui, tu m'as dit quelque chose de comment être sauvé. Je me souviens, vaguement, tu parlais de salut hier soir. C'était quoi? Eh bien, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire. Remplacez le mot croire par confiance. Placez confiance. Je mise tout sur cela. Je sais qu'on nous dit, en français, on nous dit qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Parce qu'on n'a pas confiance de celui qui porte le panier et on n'a pas confiance dans les œufs non plus. Mais vous pouvez, avec Dieu, on peut tout mettre. Hein, on peut tout miser sur lui. Hein, vous savez, il y a des gens qui aiment rentrer dans la foi chrétienne comme ils rentrent dans la mer. D'abord l'orteil, et puis après, et puis doucement comme ça, et puis ils essayent de s'y habituer petit à petit. Si on veut, il faut rentrer tout entier. Il dit d'abord de pécher. Il dit finalement, si j'ai pu croire, si l'un de nous a pu croire que Jésus-Christ est réellement mort sur la croix pour nos péchés, c'est pas parce qu'il l'a compris intellectuellement, mais parce qu'il a cru. Et s'il a cru, c'est parce que l'Esprit de Dieu a agi dans son cœur. Oui, il est impossible. C'est pour ça que vous rencontrez des gens qui disent « Moi, je ne comprends rien du tout. Ça, je ne sais pas. Laisse-moi tomber. » S'il n'a pas l'Esprit de Dieu qui œuvre dans son cœur, il ne peut pas saisir. C'est des choses, on est en train de lui parler du chinois. Mais quand l'Esprit de Dieu travaille et la personne écoute. J'avais un entretien par Skype avec un réfugié de Syrie cette semaine et il me racontait comment il était passé d'une religion à la foi chrétienne et c'était une œuvre de l'Esprit de Dieu. Il dit j'étais pas disposé à croire mais ça s'est fait et ça m'a pris, il a dit ça m'a pris 2 ans hein, mais l'œuvre s'est faite. Il dit ensuite, il doit convaincre de justice. Vous savez, la justice, il nous dit, et c'est intéressant ce qu'il dit, parce que nous, on aurait pensé autre chose. Hein. Et si ça avait été les pasteurs qui décidaient ce que voulait dire le mot justice, on aurait été dans tous les sens. Mais ici, il dit, verset 10, il dit, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alors là, on n'aurait pas pensé à ça. Mais c'est tout à fait logique. Il dit, on m'accusait de toutes sortes de choses pendant tout mon ministère. Vous avez entendu. On m'a traité de bâtard. On m'a traité de faux prophète. On m'a traité de personne qui détournait les gens de Dieu. Il a dit, on m'a traité de toutes sortes de choses. Mais vous savez ce qui va me justifier ? Eux, ils vont juger que j'étais dans le tort et donc ils vont me tuer parce que je me suis fait fils de Dieu. Je me suis déclaré fils de Dieu. Mais il dit, mais ce qui va me justifier, c'est le fait que je vais ressusciter, que Dieu me ressuscitera. Ça, c'est Dieu qui dira, mais pour moi, il est juste. Vous, vous avez déclaré qu'il est coupable, mais moi, j'ai déclaré qu'il est juste parce que je l'ai ressuscité. Il nous dit dans Romains chapitre 1, il dit, bon, la phrase est longue, donc je commence au verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit oui, du point de vue des hommes, oui, il est fils de David et tout ça. Mais du point de vue de Dieu, il est fils de Dieu et déclaré fils avec puissance par la résurrection. Grâce à l'Esprit de Dieu. Oui, c'est là, il dit, c'est là la justice. C'est là, Dieu est en train de dire, et le Saint-Esprit démontre, il dit, vous savez, vous pensez ce que vous voulez de Jésus, mais sachez que Dieu pense qu'il est juste. Et si je vais me synchroniser sur la pensée de Dieu, parce que je veux aller vers Dieu et je veux croire en Dieu, eh bien, je dois croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, comme Dieu l'a déclaré. Et peu importe ce que les autres pensent, et peu importe ce que la majorité pense, la majorité n'a pas toujours raison. Dans une république, la majorité règne, mais ça ne veut jamais dire que la majorité a raison. Et surtout dans le domaine de la parole de Dieu. Si je pense comme Dieu, je suis dans la vérité. Si je pense autrement que Dieu, je suis dans l'erreur. Et puis on pourrait lire Romains 5, 1 aussi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, nous avons été justifiés aussi. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, on dit, mais moi, la mort, j'ai pas peur, parce que je sais ce qui m'attend après, parce que je suis sauvé. Oui, d'accord. Mais vous savez réellement pourquoi vous êtes sauvé ? C'est pas parce que j'ai pu faire quelque chose pour accéder à la vie éternelle, mais il dit, c'est parce que quand j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés, il me les a pardonnés et il m'a revêtu de la justice de Christ. Et quand on a la justice de Christ, eh bien la mort ne peut plus le retenir, pas plus qu'elle a pu le retenir lui. Et sa justice, la mort, vous savez, la mort n'a de pouvoir que grâce au péché. Mais si le péché est pardonné, la mort n'a plus de pouvoir. La mort est venue dans le monde à cause du péché. Mais si on brise le pouvoir du péché, si Dieu pardonne et nous revêt de la justice de Christ, eh bien, la mort ne peut pas nous retenir. C'est, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre extraordinaire. Jésus, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que, entre-temps, moi, je suis à la présence, à la droite du Père, j'intercède pour vous, vous en avez besoin. Hein. Et puis, deuxièmement, l'Esprit de Dieu est là pour convaincre. Et s'il ne fait pas cette œuvre de convaincre le pécheur, il n'y aurait jamais d'enfant de Dieu. Donc, il commence cette œuvre. Et il dit, de jugement, il dit, de jugement, il ne parle pas du jugement des uns et des autres, il dit, du jugement parce que le diable est condamné déjà. Parce que le prince de ce monde, eh bien, à la croix, sa tête a été écrasée. Hein. Il nous dit dans Genèse chapitre 5 qu'il t'écrasera le descendant d'Ève à cause du péché, eh bien, il écrasera la tête du serpent. Et sa tête a été écrasée à la croix. Bon, et là, il ne fait que s'agiter, mais ça, il sait que ses jours sont comptés. C'est pour ça qu'il s'agite tant. Vous savez, tout simplement, Jean 3, 18, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème, un homme religieux qui normalement avait mené une bonne vie, qui marchait dans la vérité, c'était un grand docteur de la loi. Mais Jésus lui dit, celui qui croit en lui, parlant du Fils de Dieu, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. On connaît très bien Jean 3, 16, il dit « Tous ceux qui croient ont la vie éternelle ». Mais il dit « Mais si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Donc tu crois pour être sauvé ». C'est pour ça qu'on emploie le mot « sauvé ». On est sauvé que lorsqu'on est déjà en danger. Et c'est parce que nous sommes déjà en danger. Donc celui qui ne croit pas ou celui qui refuse de croire, c'est pareil. Et le seul moyen de s'extraire de cela, et ce n'est pas nous qui nous extrayons, mais c'est lui qui nous extrait, qui nous prend avec sa main percée et qui nous donne la vie éternelle, mais c'est par la foi. C'est en croyant. En croyant au contenu qu'il nous donne, le contenu de l'Évangile, c'est que Christ, selon les Écritures, est mort, et selon les Écritures, il est ressuscité. Il a été enseveli et il est ressuscité. Hein ? 1 Corinthiens 15. Ça, c'est le ministère auprès du pécheur, et le ministère qui doit se faire chez chacun d'entre nous. Et c'est à chacun de s'assurer qu'il est passé par là, parce que ce n'est pas en passant par cette porte-là, hein, même si c'est une église baptiste, et puis vous pensez tout ce que vous voulez des baptistes, mais ça n'a rien à faire, c'est pas ça qui sauve. Hein, c'est Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ, il n'a pas de titre, il s'appelle ni baptiste, ni pentecôtiste, ni luthérien, ni catholique, ni rien du tout. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, pas plus, et pas moins. Et c'est en croyant en son œuvre sur la croix que nous pouvons être sauvés. Ensuite, Jésus a un ministère auprès des disciples, et je vais aller rapidement là aussi. Il dit, au verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les recevoir. Et déjà ils n'ont pas reçu tout ce qu'il a dit déjà. Alors, sans parler de ce qui est à venir encore. Mais dit, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra, et puis il va vous aider dans ce domaine-là. Et quand il viendra, il est venu, bien sûr, le Saint-Esprit est venu à Pentecôte. Et quand il est venu à Pentecôte, la chose la plus extraordinaire, ce n'est pas que les disciples aient parlé en langue, ça, ce n'était pas ça le plus extraordinaire. Ça tape à l'œil, c'est sûr. Hein? Mais ce n'est pas ce qu'il y avait de plus extraordinaire, ni de plus difficile pour Dieu. Puis s'il a pu faire parler l'âne de Balaam, faire parler des êtres humains, c'est rien du tout. Mais le plus extraordinaire, c'est que ces hommes, qui avant ne comprenaient rien, tout d'un coup ils comprennent, ils ont de l'assurance et tout devient clair. C'est ça le grand miracle. Et c'est venu avec la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu les a remplis que tout d'un coup, tout est devenu clair. Ça vient. Jésus en a parlé. Il en a parlé d'avance. Il a dit comme ça, quand ça arrivera, vous comprendrez. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ces choses à venir. Et puis deuxièmement, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. deux choses. Il vous annoncera, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, et il me glorifiera. Deux critères qui nous permettent de reconnaître l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que de nos jours, vous savez, on vous fait passer n'importe quoi pour l'œuvre de l'Esprit. Et au point que les gens sont perturbés et ils ne comprennent plus pourquoi, ce qui se passe, ni comment, ni rien du tout. Et on leur fait passer toutes sortes de choses pour l'œuvre de l'Esprit. Et c'est tellement contradictoire, j'ai de la peine pour beaucoup de gens. Parce que je dis, mais pff, si je n'en savais pas plus que eux, je ne sais pas ce que je déciderais. C'est sûr aussi que moi aussi, je claquerais la porte de l'Église et je partirais, parce qu'il y a une telle confusion. Et c'est sûr, mais vous savez, la confusion, elle existe toujours là où il y a la vérité. Ce n'est pas la peine de mettre la confusion là où il y a du mensonge. Ce n'est pas la peine. Mais là où il y a la vérité, bien sûr, l'ennemi veut toujours mettre du mensonge. Et du mensonge, il y a beaucoup de formes, tandis que pour la vérité, il n'y a qu'une seule présentation. Il dit, voilà, et c'est une promesse aux disciples. Parce que ces disciples, en tant que disciples, ils ne comprenaient rien du tout, ou très peu. Tout ce qu'ils avaient compris, c'est que Jésus était le Messie. À peu près tout. Et après, ils avaient d'autres idées et dans la manière dont cela voulait dire. Mais dit, mais le jour où vous serez apôtre, c'est-à-dire après Actes chapitre 2, le jour où vous serez apôtre, il vous conduira dans la vérité, vous pourrez enseigner aux nouveaux croyants, vous leur enseignez les choses et ce sera exact. Alors qu'ils n'ont pas de texte, il n'y a pas de Nouveau Testament à l'Église primitive. Pendant les premières quarantaines d'années, il n'y a pas de texte. Il n'y a que l'Ancien Testament. Mais il dit, le Consolateur, il viendra, il vous permettra de comprendre, il vous enseignera, il vous conduira et vous conduirez les autres dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Ça, c'est déjà un petit truc hein, pour reconnaître. Vous savez, vous allez dans un milieu où il parle tout le temps. L'Esprit de Dieu a dit, et l'Esprit de Dieu, il dit... Pour un consolateur qui ne doit pas parler de lui-même, on entend beaucoup parler de lui. Il ne parlera pas de mien. Il glorifiera le Christ, Jésus. Oh, je sais qu'il y a des milieux qui se servent du nom de Jésus pour faire passer toutes sortes de choses aussi. Ils disent, au nom de Jésus, et puis après on dit n'importe quoi. Ça, bon, ça c'est autre chose, hein, c'est mal le représenter. Le Saint-Esprit dira ce qu'il aurait entendu. Il prendra les paroles que Christ a prononcées. Finalement, les épîtres ne sont que des explications de ce que Jésus a dit pendant son ministère, hein, c'est tout. Il n'y a rien. C'est pour ça que, en fait, l'évangile de Jean, il est plus difficile à comprendre que l'épître aux Romains. Parce que tout est là, mais c'est pas déballé encore. Mais dans les épîtres, tout ce message de Jésus est déballé, et puis en partie, et puis nous pouvons l'étudier petit à petit. C'est grâce au Saint-Esprit aussi que sera révélé le Nouveau Testament. Hein, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont été inspirés. L'inspiration, le mot inspiré, c'est pas quelque chose qui me vient dans la tête. Inspirer, le mot inspiré veut dire souffler. C'est insuffler. C'est le souffle de Dieu. Et vous savez que le mot pour esprit, c'est pneuma en grec. Et le mot pneuma, eh ben c'est le vent. Et c'est l'Esprit de Dieu qui souffle, qui insuffle, et qui a insufflé aux apôtres, qui a insufflé aux disciples sa parole. Mais Jésus l'avait prévu, il l'a annoncé. Donc ce n'est pas eux qui ont pris une initiative qui n'était pas la leur, mais ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il avait annoncé le livre de l'Apocalypse. Et l'évangile de Jean, c'était Jean, justement cet apôtre-là, qui aura cette révélation. Mais Jésus l'a prévu. Il vous parlera des choses à venir. Donc, on n'a pas de problème du fait qu'il y ait un livre prophétique dans le Nouveau Testament. Jésus l'avait annoncé à l'avance. Donc on n'est pas étonné. Vous savez, c'est extraordinaire, c'est une méthode de Dieu de toujours, avant de faire quelque chose, il l'annonce de manière prophétique. On ne le comprend pas quand il l'annonce, mais quand ça se réalise, on le comprend. Et cette parole est là pour nous permettre de discerner ce qui vient du malin. Parce que tout enseignement ou pratique qui met l'importance sur l'homme, un homme, entre parenthèses, je mets même une femme, hein, même une femme biblique, hein, c'est pas, on met pas, le Saint-Esprit ne met pas en valeur la maman de Jésus. Hein. Le Saint-Esprit met en valeur Jésus. Le Saint-Esprit ne met pas en valeur un prophète qui suivrait et qui prendrait la place de Jésus et qui prendrait une prééminence au-dessus de Jésus. Ça, non, non, le Saint-Esprit ne parle pas. Vous savez, ces gens qui s'offensent quand si on dit quelque chose sur le nom de leur prophète, c'est fâche comme... mais non, ben c'est pas un homme. Non. Un homme, c'est, les noms d'hommes, c'est une chose. Le nom de Christ, c'est autre chose. Et le Saint-Esprit met en valeur le nom de Jésus-Christ. Et on reconnaît l'œuvre de Dieu quand le nom qui est mis en valeur, c'est Jésus. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand ça met en valeur, un autre se sert du nom de l'Esprit pour mettre en valeur son nom, et puis lui devient quand même un gourou, même évangélique, ça, il y en a quelques-uns, non, non, il est en train de se servir du nom de l'Esprit pour se mettre en valeur. Non, l'Esprit de Dieu met en valeur Jésus-Christ. Et tout ce que je vois, c'est Jésus, Jésus glorifié. Et Jésus dit, verset 15, il dit, tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi il dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus, quand il enseignait, il disait, je ne vous donne que ce que le Père m'a donné. Il dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui prendra de moi et vous le donnera. Finalement, c'est les mêmes paroles qui sont transmises. Il y a une coordination extraordinaire là. Il n'y a pas de nouvelles paroles, de nouvelles révélations. C'est tout. Ce que le Père a dit, le Fils l'a dit, le Saint-Esprit l'a dit, et ça va tout dans le même sens. Et c'est comme ça qu'on peut discerner et distinguer l'œuvre de Dieu. Maintenant, la question c'est, ce matin, où je suis dans le monde et j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me convainque, où je suis disciple et j'ai besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu et de vivre par lui et d'honorer Jésus-Christ. Ce sont les deux options. C'est les seules que Jésus a données. Et c'est pour nous tous. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Elle est tout à fait à propos. Ce n'est pas une littérature ancienne du Moyen-Âge ou des premiers siècles ou quelque chose d'aussi vieux que la civilisation égyptienne ou babylonienne. Père, c'est quelque chose que l'on peut vivre aujourd'hui et que tu as voulu pour nous. Seigneur, aide-nous. Que ton esprit fasse ce pourquoi tu l'as envoyé, c'est de convaincre celui qui n'a pas encore cette foi pour te recevoir et que cet esprit puisse conduire celui qui t'a reçu et que toi, tu sois le seul nom qui soit glorifié et qui soit le seul poster qui est affiché dans la chambre de notre cœur. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je vous propose un cantique. Le 145. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et voilà, ce cantique, c'est une prière qui invite le Saint-Esprit à prendre possession de nous. Si nous sommes enfants de Dieu, il est déjà là, mais il veut prendre possession comme une pluie qui... qui irrigue un champ. 145.
Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser.